Il est 7h.
On sait depuis le départ que les enfants sont moins contaminés, moins contaminants. Clairement, il faut maintenir les écoles ouvertes.
On va tout droit vers un reconfinement généralisé, mais plus souple que celui du printemps dernier pour favoriser le travail et laisser les enfants à l'école. Consensus médical, mais division politique. Les chefs de parti ont été reçus par Jean Castex hier. Une réunion jugée prétexte avant la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. Le chef de l'État s'exprimera à 20h. Michel Fourniret va-t-il parler? Le tueur en série est dans les Ardennes où les enquêteurs espèrent qu'il va retrouver la mémoire. C'est là qu'il est soupçonné d'avoir tué et séquestré la jeune Estelle Mouzin en 2003. Les appels au boycott des produits français se multiplient dans le monde musulman. 40 000 personnes ont manifesté hier au Bangladesh. Des portraits d'Emmanuel Macron ont été brûlés dans les zones rebelles en Syrie ou dans la bande de Gaza. Reportage dans ce journal. Et puis en football, l'OM corrigé hier soir sur son terrain par Manchester City en Ligue des Champions, défaite 3-0. Je ne suis pas Pep Guardiola, reconnaît l'entraîneur de Marseille.
Juste après ce journal, l'éclairage écho de Daniel Fortin, le regard international de Vincent Hervouet avec des Italiens qui manifestent contre le couvre-feu, le PSG qui joue en Turquie ce soir. Il faut arrêter l'instrumentalisation du foot à des fins politiques. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Ce matin, l'expression de circonstance, on n'est pas sorti de l'auberge. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France se dirige tout droit vers un reconfinement. C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par l'exécutif pour contenir l'épidémie de coronavirus. Un reconfinement de 4 semaines reconductible, mais qui serait plus souple que celui du printemps dernier. Cette fois, les écoles resteront ouvertes, Victor Dolande.
Oui, les crèches, les écoles primaires et les collèges continueront d'accueillir les élèves normalement. Et pour cause, il y a un large consensus dans la communauté scientifique. L'école n'est pas un lieu de super contamination, comme l'explique Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.
On sait depuis le départ que les enfants sont moins contaminés, ils sont moins contaminants. Clairement, il faut maintenir les écoles ouvertes. Je parle des écoles, je ne parle pas des collèges, je ne parle pas des lycées, encore moins des facultés et des grandes écoles.
Pour les collèges et surtout les lycées et les facultés, les épidémiologistes s'accordent à dire qu'il faut faire quelque chose, c'est-à-dire passer tous les cours au lycée et à la fac en distanciel et renforcer le protocole sanitaire au collège. Enfin, qu'en est-il sur le port du masque dès le CP ? Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliola, il ne faut plus tergiverser.
Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on ait un certain principe de précaution et qu'on recommande du coup le port du masque, y compris aux enfants à partir de 6 ans.
Car même si les jeunes enfants se contaminent peu entre eux, poursuit cet épidémiologiste, il faut les protéger davantage au moment où le virus circule activement dans tout le pays.
Victor Dolande pour Europe 1.
S'il existe un consentement, un consensus évident dans le monde médical pour un reconfinement, du côté des représentants politiques, c'est tout un autre discours.
Oui, ils ont été reçu hier par le Premier ministre Jean Castex et à la sortie, c'est soupe à la grimace. Les chefs de parti ont le sentiment que la réunion n'était qu'un prétexte et que leur avis importe peu. On est loin de l'unité nationale du printemps dernier, Claudia Bertram.
Tous en sont ressortis pour le moins agacés, voire outrés, comme la présidente du RN, Marine Le Pen.
Nous venons de vivre un voyage en absurdie, où l'on nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connaît pas, des hypothèses que l'on ne connaît pas. On nous a demandé notre avis sur rien.
Quel que soit leur bord politique, ce qu'ils reprochent au Premier ministre de n'avoir présenté aucun des scénarios à l'étude. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS.
Nous avons malheureusement assisté à une forme de grand café du commerce. Nous aurions aimé connaître des différentes options qui étaient sur la table. Sur quoi travaille-t-il ?
Et cela fait dire au président des Républicains, Christian Jacob, que cette réunion était un simulacre.
On a bien compris que tout ça avait pour objectif de mettre en scène une concertation, mais ça donne ce sentiment d'improvisation, de panique, de manque d'anticipation.
Des réactions que ne comprend pas le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Je m'étonne que ceux-là même qui appelle à la concertation, et c'est normal, semble regretter que les décisions n'aient pas été prises avant même que les réunions se tiennent en leur présence.
Un ministre qui était à la réunion dénonce l'attitude de l'opposition. Ils sont irresponsables, objectivement, dit-il.
Après avoir réuni un deuxième conseil de défense ce matin, Emmanuel Macron prendra la parole ce soir, 20h. Déclaration à suivre sur Europe 1. La situation épidémique est critique. La moitié des lits de réanimation sont désormais occupés par des malades du Covid, soit plus de 2900 personnes.
Et c'est pour ça que l'exécutif penche pour un reconfinement généralisé, le virus circule partout, plus seulement dans les grandes métropoles, dans les zones rurales aussi. Dans la Loire, le taux d'incidence vient de dépasser les 1000 cas pour 100 000 habitants. Les hôpitaux de Saint-Étienne et Roanne sont proches de la saturation. Celui de Montbrison aussi, une petite commune de 15 000 habitants, Jean-Luc Boujon.
Au centre hospitalier du Forel, les 32 lits de l'unité Covid sont désormais occupés, tout comme les 8 lits de réanimation. En seulement 15 jours, le nombre de patients touchés par le virus a explosé dans ce petit hôpital situé en zone rurale à 35 km de Saint-Étienne, explique le directeur Edmond Makoviak.
La situation est critique. Nous repoussons nos limites de semaine en semaine. Nous augmentons chaque semaine notre capacitaire en lit Covid pour prendre en charge les patients qui sont atteints par cette maladie. À un moment ou à un autre, nous allons atteindre notre maximum avec l'hiver. Peut-être la prise en charge aussi de nombreux cas de grippe qui vont se rajouter à la prise en charge Covid. On donne un état assez fragile, donc il faut faire très attention.
13 nouveaux lits Covid vont donc être créés d'ici cette fin de semaine, mais comme cela ne suffit pas, c'est aussi le fonctionnement classique de l'hôpital qui a dû être chamboulé.
Depuis une quinzaine de jours, nous avons arrêté toute l'activité programmée. Donc il n'y a plus que les urgences, les patients qui sont chroniques comme les patients de cancérologie, tous ceux qui risquent une perte de chance s'ils ne sont pas pris en charge rapidement, et tous nos moyens sont donc d'abord prioritairement concentrés sur la prise en charge du Covid.
Montbrison est donc un hôpital en tension avec des soignants épuisés qui espèrent beaucoup des mesures drastiques que va annoncer ce soir Emmanuel Macron. Montbrison, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Face au spectre du reconfinement, les entreprises s'organisent. Elles vont devoir se remettre au télétravail à grande échelle, alors même que la reprise de l'activité économique est encore fragile.
Clément Le Saffre, bonjour.
Bonjour.
Alors, les entreprises sont-elles prêtes pour ce télétravail à grande échelle ?
Bien, nous en avons appelé beaucoup ces derniers jours et ce qu'on peut dire, c'est que la situation est très hétérogène. D'un côté, il y a les grandes entreprises qui ne sont pas inquiètes. En mars, elles ont dû déployer en quelques jours le télétravail pour des milliers de salariés. Une expérience qui leur a servi de crash test, nous disent-elles. Dans les secteurs de l'assurance et de la banque, par exemple, tout est prêt. Chez BNP Paribas, 60% des salariés sont encore en télétravail aujourd'hui, au moins à temps partiel. Donc aller plus loin ne représentera pas un effort considérable. Certains groupes ont aussi mis en place une cellule dédiée à l'organisation du travail en temps de Covid. Objectif, réagir le plus vite possible en cas d'annonce du gouvernement. C'est le cas chez Orange. On a mis 60 000 personnes en télétravail au printemps. On le refera sans problème s'il le faut, nous dit-on.
Alors ça, c'est pour les grandes entreprises. Et dans les petites, comment est-ce qu'on perçoit les annonces à venir ?
Mais les PME, elles font plutôt grise mine à l'idée de repasser en télétravail total. Dès que ça a été possible, elles ont fait revenir leurs employés sur site pour relancer leur activité. Et pour beaucoup, eh bien, la crainte, c'est que le télétravail vienne casser la fragile reprise entamée à la rentrée. Malgré tout, à contre-cœur ou pas, toutes les entreprises nous le disent, elles s'adapteront. Et selon un sondage réalisé pour Europe 1 par le Centre des jeunes dirigeants, un tiers des entreprises qui peuvent passer en télétravail, anticipe déjà de repasser entièrement dans cette forme d'organisation dans les prochains jours.
On le comprend, les entreprises vont essayer de s'adapter. Ça pose quand même la question de l'impact sur les salariés.
Oui, c'est la priorité pour tout le monde. Le télétravail a marché en mars, mais tout le monde ne l'a pas bien vécu pour autant. Et selon le vice-président de l'Association nationale des DRH, Benoît Serre, il va falloir être encore plus vigilant cette fois-ci.
Ces mesures, quelles qu'elles soient, vont se poser sur des collaborateurs et dont on le voit fatigués. Beaucoup de collaborateurs, ou certains d'entre eux en tout cas, ont mal vécu le confinement, pour des raisons de manque d'interaction sociale, de solitude, d'inquiétude avec les enfants, avec les parents, avec tout le monde. Donc, ce qui nous inquiète, c'est le risque social au sens burn-out, fatigue, épuisement, peur, crainte, anxiété, pas que sanitaire, sur l'emploi, sur demain, sur le futur, sur l'avenir.
Et là encore, eh bien c'est dans les petites entreprises qu'une deuxième séquence de télétravail généralisé risque de laisser des traces. Une étude menée par la CPME cet été l'a montré très clairement. Pour plus de 80% de patrons de PME, le télétravail limite la cohésion d'équipe et augmente le risque d'isolement de leurs salariés.
Une enquête Europe 1 que vous signez, Clément Le Saffre, et à retrouver ce dossier déjà sur europe1.fr. 7h09, la tension est à son comble entre la France et la Turquie. Dernier épisode en date, la publication en une de Charlie Hebdo d'une caricature du président Erdogan.
Ankara accuse l'hebdomadaire satirique de répandre haine et racisme culturel. Cette caricature est le résultat du programme anti-musulman du président français, accuse le principal conseiller pour la presse d'Erdogan. Et la colère gronde dans plusieurs pays musulmans après les déclarations d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression. 40 000 personnes ont manifesté hier au Bangladesh pour appeler au boycott des produits français. Manifestation aussi à Ramallah, dans les territoires palestiniens occupés. Clodilde M. Rafko.
Ils sont quelques dizaines autour d'un drapeau français en feu, à piétiner des portraits d'Emmanuel Macron. Hommes et femmes crient leur colère. Ils se sentent attaqués depuis que le président français a appelé à continuer les caricatures de Mahomet. On peut toucher à tout, sauf à notre prophète, explique Tasnim, une étudiante palestinienne de 20 ans.
Il nous a brisé le cœur en faisant ça. C'est notre devoir de défendre le prophète.
En face, Ramadan, 23 ans, acquiesce.
Ce n'est pas contre le peuple français, les Français sont des gens bien, mais c'est pour protester contre l'insulte qui nous est faite.
Dans les rues alentours, quasiment tous les commerçants ont arrêté de vendre des produits français, comme Firas, qui sort des petites briques de lait du fond de son échoppe.
Voilà, Candia. J'ai demandé à mes fournisseurs de venir les reprendre. Je n'en veux plus. L'islam respecte la liberté d'expression, mais ta liberté s'arrête là où commence celle des autres.
Ces derniers jours, le mouvement a pris de l'ampleur et des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes de Cisjordanie, à Gaza et même devant l'ambassade de France à Tel Aviv. Ramallah, Clotilde Mravko, Europe 1.
Direction les États-Unis. À 6 jours de l'élection présidentielle, Donald Trump enchaîne les meetings.
Il en est à 3 par jour. Hier, le président américain était dans le Wisconsin, dans le Michigan aussi. Donald Trump qui s'est dit excédé de voir la campagne dominée par la pandémie de Covid-19. Pour lui, les électeurs auront le choix mardi prochain entre une super reprise Trump ou une dépression Biden. Il veut tous vous enfermer à nouveau, a-t-il insisté.
7h11, en France, les recherches se poursuivent dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Sans aucun résultat. Pour le moment, depuis lundi, Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier sont dans la région de Charleville-Mézières. La juge chargée du dossier espère raviver les souvenirs du tueur en série en le ramenant sur les lieux de la séquestration et de la mort de la petite fille en 2003. Lionel Gougelot, bonjour. La juge a donc mis en place une méthode très précise.
Oui, en fait, à chaque échange avec Michel Fourniret, la juge Kiri s'avance à petits pas. Ici, dans les Ardennes, elle tente patiemment de reconstituer avec le tueur en série la chronologie du jour où il a caché le corps d'Estelle. Et en remettant Fourniret en situation dans sa propriété de Ville-sur-Lume, elle espère stimuler sa mémoire, déclencher des souvenirs, lui permettant de retrouver le trajet jusqu'à l'endroit où la fillette a été possiblement enterrée. Pour cela, la juge lui montre des points identifiés sur une carte des environs et en fonction des réponses de Fourniret, l'important dispositif de recherche de la gendarmerie se déplace sur les lieux. C'est ainsi que Fourniret a été amené dans un cimetière près de Charleville lundi soir ou près d'un étang dans un village voisin hier après-midi. Pour l'heure, il faut bien constater que le déclic n'a pas eu lieu. Même si Fourniret semble ouvert au dialogue avec la juge et les enquêteurs, il reste très fragile, diminué sur le plan neurologique et rien ne dit à ce stade que le déplacement sur d'autres lieux qui lui furent familiers lui feront retrouver la mémoire.
Lionel Gougelot pour Europe 1. Et puis, un mot de football. Déplacement sous tension pour le Paris Saint-Germain qui affronte Istanbul ce soir en Ligue des Champions.
Un fort dispositif de sécurité a été mis en place autour du club parisien en vue des tensions entre la France et la Turquie. Autre match au programme aujourd'hui, Rennes face à Séville. Hier, Marseille a été corrigé 3-0 par Manchester City. L'entraîneur phocéen Villas-Boas, très critiqué pour son schéma tactique, a pris une leçon face au maître Pep Guardiola. Il avoue son impuissance.
City, c'est une équipe qui joue très bien, qui a un coach qui est un phénomène, qui a joué toujours possession du ballon avec Bayern, avec Barcelone, avec City. Malheureusement, Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola ici. Si tu as Guardiola ici, un jour tu peux avoir Marseille, avoir précisément ça. Mais bon, malheureusement, vous avez AVB avec cette tactique et il essaye de faire le mieux possible pour l'équipe.
Des propos recueillis par Romain Boselli, AVB. Vous l'aurez compris, c'est le surnom de l'entraîneur de Marseille, Villas-Boas.
Merci beaucoup, Émilie. Il est 7h13.